Voilà. Oui, ça va. Alors, la caméra passe.
What is this, Connor? Easy, easy, old man. She's not hurt?
No.
No wounded, sir.
Che fai, gradisci?
Ma sta tornando, che fai?
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conoscete?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Che non si fa che fisso? Come fa che fisso?
Bonjour à toutes et à tous les cinéphiles, bienvenue dans Cinémascope, le magazine qui ausculte l'actualité du cinéma en Sud-Ardèche. Aujourd'hui, on lorgne du côté oriental qui articule de différentes manières modernité et tradition avec Olivier, René et Alexis. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Oh, c'est joli.
J'ai
pas entendu le quatrième parce que je l'ai pas annoncé qui est derrière la vitre. Bonjour Sylvain.
Bonjour.
On va parler avec vous de deux films, Lire Lolita à Téhéran et Le Joueur de Go, mais on parlera également de la fin du festival Terre et Racine, la première édition qui a eu lieu au Vence jusqu'à dimanche dernier. On fera un petit bilan avec toi, Alexis. Ben, allez, c'est parti, on commence avec Lire Lolita à Téhéran.
The literature they don't want us to read, the forbidden books. Let's see if... Reading Lolita here in Tehran will help us fight back.
قرمت برم. همشون میدونن این کار غیر قانونی و خطرناکه.
من اختیار دارم جلوی هر خانومی که بدون حجاب وارد میشه رو بگیرم.
فکر میکردی همچین اتفاقی بیفته؟
من فکرش نکردم. ولی باید میکردم.
Here, we're all together. اگه به این زندگی عادت بکنیم چی؟
با اعتراف به خودم خیانت کردم، به همه همون خیانت کردم.
Lire Lolita à Téhéran, donc de Eran Riklis, qui est israélien et qui adapte ici le roman d'Azar Nafizi. On a entendu parler anglais, d'ailleurs le titre original c'est Reading Lolita in Tehran, et puis iranien, persan. Un film utile sans doute, René, que tu es allé voir.
Ah oui, très utile.
Très utile, mais n'est-il pas un peu scolaire, plat? C'est ce qu'on peut lire ou entendre de ci, de là.
Je vais y venir.
Mais oui, je te tends une perche énorme.
Mais rapidement, pour ceux qui nous écoutent et qui ont, pour leur donner quand même envie d'aller voir ce film scolaire, je dirais que...
Il
est plus solaire que scolaire. Ouais. Alors, bon, au début du film, on a donc Azar Nafizi, professeur de littérature anglaise, en exil, qui rentre en Iran après la Révolution, plein d'espoir, comme tous ces gens qui sont retournés là-bas et qui se disent « Tout va changer, le chat a disparu. » Et bien sûr, la désillusion est totale, le réveil est brutal, surtout pour les femmes, et donc ce personnage central, Azar Nafizi, qui se retrouve professeur de littérature anglo-américaine à l'université, va déchanter très rapidement, le carcan répressif du régime se resserre, ça commence avec le voile qu'elle se voit obligée de porter, ça continue avec ses garçons qui, dans son cours, contestent le choix des romans qu'elle a choisi pour son cours, choqués qu'ils sont parce qu'ils considèrent comme licencieux dans ses romans. De vexation en vexation, elle finit par abdiquer. Elle quitte l'université et elle organise des réunions secrètes avec 7 de ses étudiantes pour lire de la littérature occidentale interdite par le régime et y trouver comme un écho à leur propre vie. Ces femmes se retrouvent donc clandestinement, j'insiste. Elles retirent leur voile, au propre et au figuré. Elles discutent de leurs espoirs, de leur amour, de leur place dans la société de plus en plus répressive. Et pour ces femmes, lire Lolita et d'autres romans encore qui sont mentionnés dans le film, comme Pride and Prejudice de Jane Austen, c'est célébrer le pouvoir libérateur de la littérature. Alors, ce film bouleversant est servi en particulier par deux actrices étonnantes, dont le nom est fort difficile à prononcer pour nous, Golshifeh Farahani et Zahr Amir. On sort du cinéma hanté par le visage de ces deux actrices, tant leur jeu est intense et chargé d'émotions. Mais moi, ce qui m'a particulièrement, personnellement, le plus touché, c'est cette connivence entre ces femmes. Elles se serrent les coudes, victimes qu'elles sont encore et toujours de la brutalité des hommes. C'est est un film qui souligne cette sororité. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement agréable à regarder et qui donne de l'espoir. On sent que les femmes ne se laissent pas avoir. Et c'est encore un film qui montre que les mecs, vraiment, ils ne sont pas brillants à Téhéran et ailleurs. En tant qu'homme, c'est presque gênant, quoi. Mmh. Alors, oui...
C'est bon d'entendre cette parole d'un homme.
Oui,
c'est tellement vrai, ce que tu
veux dire. Non, mais il y a des fois où tu te dis, mais putain, il n'y a que les connards parmi les mecs. C'est terrible, dans le cinéma, on le voit, ça. Alors, bon, oui, c'est un film, tu l'as dit au début, que les critiques ont trouvé trop convenu, trop classique quant à la forme. Je ne peux pas résister au plaisir de vous lire certaines de leurs remarques que j'ai glanées ici ou là. Malgré une réalisation un peu ronronnante, mise en scène très classique, malgré un manque de personnalité dans une mise en scène tant trop démonstratrice, tantôt elliptique, un film scolaire, adaptation classique, une adaptation honnête, peine toutefois à dépasser le stade illustratif d'une dénonciation virtueuse, s'offusque le monde avec un accent tout parisien.
Et oui, alors voilà. Fais ton coup de gueule, ton coup de griffe, parce que ronronnant, je me dis, c'est peut-être un jeu de mots, parce que souvent les critiques aiment les jeux de mots, oui. Avec le chat, non
je ne
sais pas.
Je les surestime.
Bon, mais alors toi, jette ton coup de griffe envers ces critiques.
Moi, je pense que ces critiques auraient souhaité de voir ces femmes se promener en tutu dans les rues de Téhéran, par provocation. Eh ben non, elles ne l'ont pas fait. Vous vous rendez compte, elles ne l'ont pas fait. Oui, peut-être que ces gens-là, ces critiques n'ont jamais entendu parler de ce qui se passe là-bas. Ce film est didactique, mais bien sûr qu'il l'est, mais il faut qu'il le soit. Qui va le voir? Les Iraniens? Non, qui? Les Français? Ça parle de choses qui se sont passées il y a 50 ans. Mais les gens, ils ne savent pas trop. Il faut quand même leur rappeler ce qui se passe là-bas. Ce qui s'est passé là-bas ces 50 dernières années. C'est ce que fait le film. C'est la toile de fond. Elle est incontestable, elle est incontournable. Voilà. Montrer, par exemple, les sbires du régime qui rentrent dans un bistrot avec des battes de baseball pour tabasser des couples qui se parlent simplement. Il faut le montrer, ça. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils veulent formellement? Je ne comprends pas. C'est d'autant plus curieux que j'ai vu des films qui, d'un point de vue formel, sont d'une platitude à faire avorter une couvée de crapauds. Et là, ils disent rien. Ils disent rien. Récemment, j'ai vu le film
A Real Pain.
Et qui est d'une platitude formelle, mais ça dépasse l'entendement. Je veux dire, c'est fait comme un film publicitaire sur les voyages. Mais non, ils ne le disent pas. Non, ils disent que c'est un film, ceci, cela. Ils n'ont pas vu ça. Bon, voilà. Enfin, je me calme.
Et alors, oui, c'est ça. Alors, et donc, pourquoi, d'après toi, précisément, ils établissent cette critique envers ce film? C'est quoi?
La seule raison que je peux trouver, le film, le cinéma iranien est tellement intéressant, tellement fort, tellement provoquant et tellement qu'il nous provoque, il nous remet tellement en question qu'ils se sont dit, bon, il va bien falloir qu'on dise quelque chose de négatif sur un film iranien un jour ou l'autre. Alors ils ont dû choisir celui-là. Mmh. Voilà, c'est la seule explication que je trouve. Il y en a peut-être d'autres, oui. Mais tu y viendras. Voilà. De fait, j'insiste, hein, ça s'adresse à des occidentaux et il faut les mettre au courant. Voilà. Et donc, pour en revenir au film lui-même, il n'est pas du tout, je dirais qu'il nous fait toucher du doigt, hein, il nous fait toucher du doigt par son didactisme incontournable, ce qui s'est passé en Iran ces derniers 40 ans, 40, 50 ans. Alors, je crois qu'on peut parler de cinéma engagé, un peu à la Ken Loach, et ce cinéma-là, qui s'ajoute à des articles de journaux, à des livres, on en a besoin, et tant pis si ça défrise une certaine critique. Moi, je conseille vivement à ceux qui nous écoutent d'aller voir ce film. J'ai eu l'occasion et le bonheur de le voir au Festival de cinéma d'Alès. La salle était bondée de monde, et les gens ont applaudi à la fin du film. Moi aussi, j'applaudis.
Bon.
Merci beaucoup, René.
Ouais,
eh ben,
ça dit
Olivier,
quoi, ça fait du bien.
Olivier,
j'ai une question, juste, oui. Je te coupe. C'est le réalisateur ou la réalisatrice, c'est une femme ou un homme?
Non, non. C'est un homme. Israélien.
Ok, c'est un Israélien. Ouais. Ok.
On a peut-être une raison. Bref, oui, c'est un réalisateur israélien et qui ne tombe pas non plus à bras raccourcis sur l'Iran. Il dénonce le régime effroyable des mollahs sans faire une espèce de lot total. pour dégager toute la culture persane depuis 2000 ans. Et donc, effectivement, je pense que la critique dont tu parles, faute de culture, la plupart du temps, les gens ne savent pas grand-chose sur l'Iran, sur la Perse, les traditions persanes, littéraires, poétiques, etc. Non, je ne crois pas.
Et je dirais presque que c'est une faute de curiosité plus que de culture.
Oui, mais ça va de pair, oui, Alexis, ouais. Tu vois ce que je veux dire. Enfin, je pense qu'on est d'accord, effectivement. Et donc, je pense que c'est l'explication, c'est-à-dire qu'il y a un point de vue qui est, comme tu le dis très bien, nettement engagé, mais assez finement, et pour s'engager nettement, tout en jetant pas le bébé avec l'eau du bain, il faut être un petit peu didactique. Et je pense pas que ce film-là, le soit de manière outrancière du tout. Et en particulier grâce, comme tu l'as dit, à l'interprétation et en particulier à la photographie et au montage et à la mise en scène. La mise en scène a été faite en Italie, pas à Téhéran. Donc ils ont eu des possibilités de mise en scène qui n'eût pas été possible de réunir à Téhéran, comme pour certains cinéastes qui, évidemment, se mettent en danger en filmant là-bas. Bon, donc, c'est un film, évidemment, moi, je trouve non seulement utile, mais alors j'aurais aimé, si j'en ai le temps, aller un petit peu plus loin, parce que, justement, je trouve, si on le compare aux graines du figuier sauvage, par exemple, ou si on, moi, j'ai pensé à un recueil de poèmes de femmes afghanes, un recueil qui est paru chez Bruno Doucet Éditions, et on en avait lu, je ne sais pas si tu te souviens, oui. Sophie, des passages dans Les Jardins suspendus, l'antique émission aujourd'hui disparue. Et dans ce film, donc Lire Lolita à Téhéran, comme dans ce recueil de poèmes d'Afghanes, et comme dans Les graines du figuier sauvage, je trouve qu'il y a un art de faire sentir l'enfermement, cette espèce de pression qui s'accroît lentement, et tout à coup, effet de seuil, devient insupportable, comme si on était transpercé. Et j'ai senti ça. Bizarrement, je fais des associations qui peuvent paraître étranges, mais je crois que les gens qui connaissent vont les comprendront. Ça m'a fait penser à 12 ans esclaves, le film où on voit comment concrètement on met les gens en esclavage et en aliénation complète d'eux-mêmes. Comment on fait ? Ben par la violence brutale, tout simplement. Les gardiens de la révolution qui débarquent dans le bar, comme tu le disais, avec des matraques, et si t'es pas d'accord, et si tu bouges le petit doigt, eh ben, tu t'en prends plein la tronche, mais réellement, on t'emprisonne à 30 par cellule, et on vient de chercher 3 par 3, et il y en a que 2 qui reviennent. Je veux dire, il faut comprendre ça. Il faut le montrer. C'est absolument. Sinon, on ne comprend rien à l'établissement d'un pouvoir tyrannique ou totalitaire dans une société cultivée. On ne peut pas comprendre qu'il y a la menace de la violence ultime tout de suite. Mais ça peut être aussi tu perds ton boulot, tu te prends juste une claque, mais juste une claque, bon, tu préfères l'éviter. Donc du coup, si vous voulez, ce film-là nous donne à sentir ça. Et dans le prolongement de ce que disait René, moi je crois de manière un peu taoïste que nous avons tous une part de féminin en nous, le yin, quoi. Nous avons tous du yin en nous. Et quand on regarde ce film, non seulement quand on est un homme, on sent cette dénonciation de la masculinité, on la sent nous toucher, nous, comme mec, on se dit, mais quand même, je participe à cette connerie, moi. Et puis, d'un autre côté, notre partie féminine ressent l'oppression et l'aliénation pour ce qu'elle est. Et donc, je trouve que si ce film est un tantinet scolaire, eh ben, ma foi, tant mieux qu'il le soit pour nous montrer ça, pour nous donner les clés de compréhension et effectivement qu'on comprenne que nous sommes, nous, en Occident, un recours possible pour ces gens, à travers les politiques d'immigration et d'accueil des réfugiés politiques, etc. Il faut comprendre ça.
Lire Lolita à Téhéran, pardon, de Eran Riklis, avec Golshifteh Farahani notamment. C'est à voir en ce moment à Aubenas et à Privas. La semaine prochaine, il sera à Rosières et Auteuil, et mi-avril, il sera au Vence. Bah justement, au Vence, on va y faire une petite étape avec toi, Alexis, pour nous donner des nouvelles de ce premier festival Terre et Racine. Tu es arrivé il y a...
Ça va faire un an dans un mois.
Tu es arrivé, voilà, un an, et tu as déjà entamé plusieurs chantiers, dont celui-là, enfin même plus que chantier avec construction totale. Une ville totale qui s'appelle Terre et Racine, un festival avec 14 projections sur un mois.
Oui.
Et alors, comment ça s'est passé ?
Très bien, éprouvant, mais très bien, très très bien. Alors on a eu nos lots de surprises, de belles surprises, de déceptions, mais ce qui est normal dans un festival, autant dans la qualité des films ou des interventions, on n'est pas toujours à parts égales, et des fois c'est aussi des films très techniques. Moi je pense tout de suite au film Toucher Terre, qui parle plutôt du bâtiment et du bâtiment écologique dans sa construction. Et là, on a senti que le public était moins touché parce que c'était vraiment quelque chose qui parle à un certain public, mais pas au grand public déjà. Donc, ce qui fait qu'on avait beaucoup d'architectes en salle, c'était très très drôle, mais qui se servaient de ça pour leur travail et qui étaient curieux de la chose, mais ça allait pas plus loin, voilà. Mais on a eu quand même de superbes échanges, et des fois c'est les petits débats avec une quinzaine de spectateurs qui ont duré le plus longtemps, hein. Donc, des fois 2 heures de débat, c'était très intense et intéressant quand même. Alors à noter, le plus grand succès de notre festival, c'est quand même le film À bicyclette. Forcément. En plus, à lundi soir, qui était quand même un petit peu inespéré, on a fait les 3/4 de la salle, donc on a quasiment fait 200 personnes. C'est une très belle nouvelle et un très beau. C'était une très belle séance avec des échanges hyper intéressants. On avait fait venir Le Ressort, qui est une association qui travaille sur le deuil pendant toute l'année. Et en fait, ça a complété cette séance-là avec les spectateurs qui, à la fin de la séance, pouvaient faire des petits mots sur leur carte postale, avec des questions posées sur la carte postale, pouvaient répondre à ces questions sur le thème de la mort. Et donc, sur le thème du deuil. Et donc, c'était hyper intéressant, et on voit bien que cette année c'est assez particulier, il y a plein de films sur le deuil en fait, ou alors si on s'y intéresse un peu plus, on voit que les...
C'est ça. C'est sûr, on a déjà chroniqué quelques-uns là, et puis on ira, dont on n'a pas encore parlé. Exactement. Aussi, peut-être la semaine prochaine.
Et il y en a d'autres, j'ai vu des documentaires apparaître qui sont aussi hyper intéressants. Donc ce film a très bien marché. On a aussi donc les rencontres du collectif citoyen qui a très bien fonctionné, avec un documentaire qui avait été diffusé sur Arte à l'époque, qui s'appelait Recettes pour un meilleur monde. Donc on représentait des communes qui proposaient donc une alimentation beaucoup plus saine pour des cantines, etc. Et donc là, on a rencontré donc des élus de communes qui étaient dans cette transition-là, qui avaient fait des actions pendant leur mandat. Et donc, on a, pareil, un débat hyper intéressant avec leur point de vue, autant au point de vue des élus, mais le point de vue aussi des citoyens, parce qu'en fait, on voyait bien que les échanges citoyens-élus, des fois, ils avaient du mal à se comprendre, parce que forcément, il y avait des visions complètement différentes l'un à l'autre.
Mais c'est intéressant, que ce soit un lieu d'échange.
Exactement.
Pour qu'ils se rencontrent aussi d'une autre manière autour de... Voilà.
Il y a eu beaucoup de questions posées. De toute façon, c'était l'objectif de ce festival, c'est que autant qu'acteurs que diffuseurs et spectateurs, on puisse échanger ensemble sur l'avenir de notre territoire, l'avenir au national, mondial, et de voir à notre toute petite échelle ce qui peut se passer sur notre territoire, mais aussi nous, ça nous permet de nouer des liens. Nouer des liens autant sur les associations de notre territoire, mais nouer des liens aussi avec des spectateurs, et c'est ce qu'on dit souvent, c'est que le cinéma, c'est un lieu culturel, c'est leur lieu culturel, c'est-à-dire que c'est une mobilisation citoyenne déjà à la base, c'est eux qui viennent au cinéma, nous, on propose des œuvres, on propose une action, mais à partir du moment où s'ils ne soutiennent pas cette action-là, eh ben, on fera rien sans eux.
Voilà. C'est un peu comme Cinémascope, en fait.
Exactement. Ah ouais. Ouais, ouais, tu peux rebondir. Mais voilà, c'est ce festival, en tout cas, moi, je l'entends comme une mobilisation citoyenne. C'est-à-dire qu'on met quelque chose en action et ça a très bien fonctionné. On a eu plus de 1000 spectateurs qui sont venus au Vence pendant ce mois. Sur 2000 spectateurs, on a fait la moitié, en fait. On a fait 2000 ce mois-ci, on a fait 1000, donc c'est la moitié. Donc c'est une belle réussite. Je dirais le point négatif, c'est que forcément, les spectateurs s'essoufflent sur un mois, que c'est très dur de les garder. Donc peut-être que l'année prochaine, il y aura plutôt sur une semaine. Ça permettra de rencarder plutôt les gens. Peut-être faire une programmation un petit peu moins dense et de se fixer des séances sur les thèmes, enfin les thèmes qui ont le mieux marché, plutôt se fixer sur ces thèmes-là. Et puis prendre quelques risques, et d'avoir beaucoup plus d'invités. Voilà, on a eu très peu de temps pour faire ce festival, donc là on a un an. J'ai convié aussi des partenaires du festival à venir m'aider pour l'organisation de ce festival, parce que tout seul c'est compliqué, on peut pas, et puis je connais pas tous les thèmes, je pas sur les bouts des doigts, donc voilà, je ne suis pas assez prétentieux pour le faire, et voilà.
Restons, ça ne change rien.
Donc rendez-vous l'année prochaine au printemps pour une deuxième édition de Terre et Racine, mais il y aura sans doute entre temps d'autres réjouissances au cinéma Vivance des Vence. Okay. Ben, on poursuit, nous, notre chronique de films avec le deuxième film au programme de ce Cinémascope, donc toujours un peu plus vers l'Orient.
私を盗すと扱いするつもりか。父上が50両を取ったというのですか。太夫の事故を持ち出したのも柳田様を陥れるため。草の根分けても柴田兵庫を探し出す。大晦日までに50両を返し下さればお絹ちゃんは無傷でお返しします。私の今日まで清廉潔白であろうと心がけて生きてきた。だがそれは正しかったのであろうか。
Le joueur de go de Kazuya Shiraishi. Alors, je vous ai passé la bande-annonce en japonais. Et de toute façon, le film est projeté en version originale. J'ai regardé la bande-annonce en version française. Oh. C'est abominable. Ne faites pas cette erreur. Donc, Olivier, oui. Tu es allé voir le joueur de go.
Oui. Oui, j'ai bien fait. J'ai bien fait parce que donc, c'est une période, je crois que beaucoup de Français en particulier affectionnent. On est à la période Edo, c'est-à-dire ça va, c'est le shogunat de Tokugawa. Ça va, si vous voulez, le shogunat, il est proclamé en 1603 et ça va jusqu'à l'ouverture du Japon à l'Occident en 1868, si mes souvenirs. 63 ?
8.
C'est 8, je crois que c'est 8.
C'est le film Cap et d'épée.
Oui, d'une certaine manière. Alors, on parle beaucoup de synchronicité en ce moment entre les civilisations et même entre les cerveaux des individus. Pour l'auditeur, il y a effectivement beaucoup de points communs entre le Japon de la période Edo et, on va dire, l'Europe occidentale de l'époque de Louis XIII, Louis XIV, D'Artagnan, etc. Si vous voulez, les samouraïs ne sont pas si éloignés des cadets de Gascogne, d'une certaine manière. Hein. C'est-à-dire que la noblesse japonaise fait face à la prise de pouvoir par le shogun. La ville d'Edo, futur Tokyo, prend la place principale parce que c'est la résidence du shogun, au dépens de Kyoto, ville impériale, et même d'Osaka, ville commerciale. Donc, voilà. Et les samouraïs, un petit peu comme les cadets espagnols après la conquête de l'Amérique du Sud, là, ils sont défiéfés, c'est-à-dire que de plus en plus, ils n'ont plus de terres, mais ils gardent leur noblesse. Hein, ils gardent leurs privilèges nobiliaires, le port d'armes étant le principal privilège nobiliaire, comme nos chevaliers du XVIIe siècle, chevalier Descartes par exemple. Donc effectivement, ces personnages nous fascinent, parce que ils sont à la fois revêtus d'un prestige qui remonte au presque à l'antiquité japonaise, ou en tous les cas à la période féodale qui, elle, commence en Europe occidentale vers le 9e siècle, hein, ben par là. Et donc, ils sont revêtus de ce prestige-là, mais économiquement, ils sont plus rien. Par conséquent, on n'est pas... Pourquoi ça nous attire ? Je crois que c'est parce que c'est le terreau des romans. C'est sur cette prise de pouvoir de la bourgeoisie avec ses modèles encore aristocratiques qui tournent autour, qui donnent en quelque sorte la matière et l'énergie du roman, de l'histoire romanesque. Et c'est ce qu'on trouve dans les films de Kurosawa, dans les films qui sont consacrés à cette période-là, et même encore chez Ozu. Je pense, même encore chez Ozu, on a, parce que effectivement le Japon a été comme mis sous cloche shogunale du début du XVIIe jusqu'à l'ouverture. Et finalement, il n'y a pas grand-chose qui change dans la civilisation japonaise durant ces plus de deux siècles et demi. Il n'y a pas grand-chose qui change. Et effectivement, ça plante le décor, parce que finalement, autant les auteurs d'estampes japonaises comme Hiroshige, Okusai, Utamaro, etc., ont continué cette culture-là. On a l'impression qu'un certain nombre de cinéastes continuent cette culture-là. Et là, avec le joueur de Go, de Kazuya Shiraishi, eh ben, on a la continuité. C'est-à-dire que voilà, la mise en scène d'un samouraï accusé à tort de quelque chose de honteux, qui s'est depuis longtemps réfugié dans le jeu de Go, parce qu'il poursuit une tradition de très haute culture, même s'il vit pauvrement. Et puis, effectivement, c'est là le ressort de l'histoire. Il va falloir qu'il règle des comptes du point de vue de l'honneur, de son honneur propre, de la sauvegarde de sa fille. Donc, on est dans un moment extrêmement tendu, et il va devoir résoudre ses problèmes d'honneur, de gloire, hein, finalement, de reconnaissance. Il va devoir les résoudre comme dans une partie de Go. Et c'est-à-dire qu'il est joueur de Go. Il joue d'ailleurs avec un très fort joueur de Go qui est un bourgeois, lui. Hein, et donc il s'oppose. Et finalement, le Goban, le jeu de Go, la table de Go, avec les pierres dessus, devient une sorte de métaphore de la société et de tous les enjeux qui sont dans la société, des enjeux de gloire, on l'a vu, des enjeux d'argent, parce que l'argent, évidemment, est roi, et des enjeux de nature sexuelle, puisqu'il y a la question du mariage, il y a la question aussi de la prostitution, etc. Donc, il faut jouer dans la société comme on joue au Go. Ce qui m'a particulièrement plu dans ce film, c'est d'une part l'esthétique globale, hein, c'est-à-dire les accessoires, les costumes, les décors, le paysage, tout est vraiment nous rend compte de cette période-là à l'égal d'une estampe japonaise du 19e. C'est vraiment très fort. Et le cinéaste est dans une espèce de continuité. C'est-à-dire que grâce au montage et à la photographie, il parvient à nous mettre dans une espèce d'atemporalité. On ne sait pas bien si on est au début du 16e, du 17e, pardon, ou si on est aujourd'hui, parce qu'il y a des moments, des effets de photographie avec des lumières blanches ou très contrastées, des couleurs qui font presque un des 80, d'une certaine manière, si bien qu'on est porté dans une atemporalité dans laquelle on peut vivre l'histoire complètement. Et on part pendant plus de deux heures, on part littéralement dans ces enjeux d'honneur et d'argent et de...
Et d'amour,
on peut dire ça, oui, tout à fait.
Et d'amour. Le joueur de Go, qui est à voir au navire, qui sera bientôt à Rosières. Tu voulais ajouter quelque chose, Alexis ?
Pas sur le film, mais sur autre chose.
Oh, mais oui.
C'était pour conseiller un petit peu les films qui vont arriver prochainement, qu'on a nous diffusés en avant-première et qui ont eu des bons retours spectateurs que je conseille l'équipe à aller voir. Donc on a Le Village aux Portes du Paradis, un film somalien qui est extraordinaire. On a, On a eu des retours spectateurs ce jour-là. Enfin, tout le monde est effondré et qu'un film en Somalie existe, enfin, qui a été tourné en Somalie, c'est extraordinaire.
Il n'y en a pas
beaucoup.
Et qui a été diffusé aussi à l'USAS pendant Plan Large, qui c'est était ça. Consacré au pluriel cinéma africain et qui a aussi complètement ébloui et réjoui la salle.
Exactement, donc à ne pas manquer courant au mois d'avril. On a aussi Les Enfants Rouges de Lofti Achour, qui est un film tunisien également, à ne pas louper. J'en dirai pas plus parce qu'il faut se laisser vraiment bercer, c'est assez poignant, choquant, mais ça laisse pas indifférent. Et le dernier, qui est un film canadien qui s'appelle Berger, qui va sortir courant avril aussi, qui est un Canadien qui décide de s'installer en Provence pour devenir berger et tout ce que ça implique. Ouais. Donc un film qui a été beaucoup apprécié au Vence et ouais. Oui, pour le coup et qui retrace bien un petit peu les délicates situations dans lesquelles peuvent être les bergers. Voilà.
Ben merci pour ces envies de cinéma. Je sais pas, Olivier ou René, est-ce que vous avez, est-ce qu'il y a des films qui vous...
J'aimerais. Ouais. J'ai vu au Festival d'Alège un film en avant-première qui va sortir, je sais pas trop quand, qui a été présenté par l'actrice principale qui était extraordinaire dans ce film, Bérénice Bejo.
Mexico 86.
Elle est extraordinaire. Hein?
Mexico 86.
Mexico 86, c'est superbe. C'est superbe parce que c'est presque un défi pour un acteur, puisqu'elle joue le rôle d'une femme qui a quitté le Guatemala pour sauver sa peau parce qu'elle était politiquement une révolutionnaire, donc en but au régime. Elle se retrouve au Mexique dans la clandestinité, elle n'arrête pas de changer de perruque, donc son jeu est extrêmement contraint, il ne faut pas qu'elle se fasse remarquer, et en même temps elle arrive à exprimer des émotions, elle est formidable, elle a présenté ce film, c'était un enchantement.
Mexico 86, tu l'as vu Alexis?
Non, fin avril il sort, je me suis renseigné sur le film. Ouais. Ouais.
Très très bien.
Et tu me rassures parce que du coup j'ai pas eu très peu d'infos sur le film.
C'est fort, c'est
ça
très
me
fort.
Permet de le programmer, c'est une...
Ça va plaire au Vince.
Ouais.
Et oui, parce que quelquefois pour les programmateurs c'est compliqué de programmer des films qu'on n'a pas...
Il faut que ça soit son métier premier, c'est-à-dire que programmateur, on est là pour aller voir les films, nous c'est pas toujours le cas.
Il y a un autre film que j'ai vu qu'il faudra vraiment... Alors là, je ne sais pas. C'est un film qui se passe en Turquie. Le titre m'échappe maintenant. C'est une femme qui tient un hotline, c'est-à-dire des conversations sexuelles. Et un beau jour, il y a un tremblement de terre et un gamin qui a fait une grosse connerie l'appelle pour lui dire « Il faut que quelqu'un s'occupe de moi. » Mais voilà, la personne qui est responsable des secours se trouve dans une orgie à ce moment-là. Et, alors, c'est un film qui est un véritable défi pour le spectateur. Si vous avez une seconde d'inattention, vous n'y comprenez plus rien. Parce que c'est que les coups de fil. C'est que ça se passe tout au téléphone. Mais si on suit, c'est excitant.
D'accord.
Donc si les gens viennent voir ce film, avant, tu dois faire une intervention, tu dis « Surtout ne vous endormez jamais
!» Ben, merci beaucoup pour ces envies de cinéma. Un mot aussi, dimanche, il y a toujours le festival Palestine en vue et au Navire, il y aura deux films. Afidaï Film, un film de Kamal Al-Jafari. C'est du documentaire expérimental qui nous vient de Palestine. Et puis à 20h30, le film Songe, un film de Rachid Macharawi. Là, pour le coup, c'est une fiction, une coproduction palestinienne franco-suédoise. Voilà, ce sera à 20h30 dimanche pour s'immerger dans cette culture palestinienne. Eh ben, merci beaucoup à tous les trois d'être venus parler cinéma et on se retrouve probablement la semaine prochaine.
Sans hésiter.
Ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Voilà.